Europe Midi, Romain Desarbres.
Midi et demi pile, bonjour à tous, bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Des brigades coup de poing avec l'appui de l'armée dans les quartiers dangereux pour ramener la sécurité aux habitants. C'est ce que propose Valérie Pécresse qui est en déplacement dans les Bouches-du-Rhône et dans le Vaucluse. Stéphane Burgat est à ses côtés et on sera en direct avec David Olivier Reverdy, policier et secrétaire national adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Jean Castex dit qu'il est prêt pour la quatrième dose de vaccin. Si les autorités sanitaires donnent leur feu vert, évidemment, j'appellerai le professeur Philippe Amouyel. Éric Zemmour lance un appel au président de l'Association des maires de France. Pour obtenir ses 500 signatures, le candidat Reconquête propose un système qui reviendrait à anonymiser la signature des élus. On va y revenir avec Louis Dragnel. Et puis la tendance météo, évidemment, avec vous Marlène Duret.
Un jeudi calme, froid, venteux en Méditerranée et plutôt bien ensoleillé dans l'ensemble, avec quand même quelques bémols, puisque sur un quart nord-est du pays jusqu'en région lyonnaise, le ciel restera chargé cet après-midi malgré les percées du soleil. Et puis on a de nouvelles pluies qui arriveront en Bretagne.
Merci Marlène et à tout à l'heure pour la météo complète. Valérie Pécresse ne veut pas que la campagne présidentielle ne se résume qu'à la situation sanitaire. La sécurité reste une des principales priorités des Français. La candidate des Républicains à la présidentielle le sait bien et elle est en déplacement dans les Bouches-du-Rhône et dans le Vaucluse. Stéphane Burgat en direct avec nous. Valérie Pécresse était à Salon de Provence. La punchline de Valérie Pécresse ce matin, elle est efficace. Hein. Il faut sortir le karcher de la cave. Mais ça ne doit pas masquer ses propositions. Qu'est-ce qu'elle propose exactement?
Oui, effectivement, même si elle est revenue ce matin encore sur cette petite phrase et s'en est expliquée, elle veut, eh bien, dit-elle, nettoyer les quartiers, traquer, harceler les caïds, les délinquants, les dealers, avec donc déjà deux mesures qu'elle a détaillées tout à l'heure au commissariat de Salon de Provence.
Si vous voulez mettre hors d'état de nuire les délinquants, il faut réhabiliter les courtes peines de prison. Ces courtes peines de prison qui ne sont plus jamais exécutées, depuis notamment Christiane Taubira. Alors, nous allons promettre de réaliser 20 000 places de prison supplémentaires, et nous les ferons, mais elles ne sortiront pas de terre dès l'été. On est en crise d'autorité, on vit une impunité permanente des délinquants. Eh bien, on va ouvrir des centres de détention provisoires dans des bâtiments désaffectés.
Voilà, ces centres de détention, eh bien, qui seraient dédiés aux primo-condamnés et aux courtes peines avec bracelet électronique. Valérie Pécresse qui a proposé également la mise en place d'une école de formation unique des policiers municipaux. Sa visite qui se poursuit dans divers quartiers de Salon de Provence de Cavaillon où elle tiendra un meeting en fin d'après-midi.
Merci beaucoup Stéphane Burgat. Valérie Pécresse qui veut, je cite, « nettoyer les quartiers ». On est avec David Olivier Reverdy, policier et secrétaire national adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Bonjour David-Olivier Reverdy.
Bonjour.
Des brigades coup de poing avec l'aide de l'armée pour sécuriser ces interventions. Est-ce que ça peut être efficace? Quel est votre point de vue de policier, de spécialiste?
Déjà, mon point de vue, c'est que le constat est posé. Et le constat, c'est le constat que l'on dénonce et qu'on ne cesse de dénoncer depuis bien longtemps. Donc là-dessus, on ne peut pas reprocher à Mme Pécresse de marquer cette volonté de fermeté, parce qu'aujourd'hui, on dénonce quoi? On dénonce souvent le laxisme, donc on ne va pas monter au créneau contre des gens qui veulent de la fermeté, bien au contraire. Quant à sa demande de brigade coup de poing, bien évidemment, pourquoi pas, j'y rajouterai également le renseignement criminel qui est extrêmement nécessaire à la base de tout, de manière à pouvoir reconquérir les cités, mais non pas une cité après l'autre, mais toutes les cités ensemble, de manière à pouvoir derrière recueillir des preuves, procéder aux interpellations et présenter les individus à la justice. Donc si l'armée peut nous aider en ce sens-là, pourquoi pas? Mais en attendant, l'armée ne va pas prendre la place de la police. L'armée peut aider la police dans ces quartiers-là, mais sans jamais se substituer à elle. Mais cette proposition, en fait, ça sera possible à deux conditions. Si on redonne des moyens aux policiers, comme je vous l'ai dit, il faut occuper toutes les cités en même temps dans une ville. Donc forcément, ça nécessite de gros moyens humains et de gros moyens matériels. Mais derrière aussi, sans fermeté de la justice, clé de voûte de l'édifice, on n'y aura rien. Parce que le problème aujourd'hui, ce laxisme, cette impunité qui n'est plus un sentiment pour beaucoup de personnes, mais qui est une réalité dans bien souvent, dans bien des cas et dans beaucoup de dossiers que nous avons à monter et malheureusement à déplorer une réponse pénale qui n'est pas à la hauteur.
Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a l'épidémie, bien sûr, mais pendant ce temps-là, les violences dans les quartiers dangereux continuent.
Bien évidemment, ça a encore tiré hier à Cavaillon. Ça tire tous les jours dans toutes les villes de France, qu'elles soient petites, grandes, connues, pas connues du grand public. L'insécurité est réelle. Ce n'est plus un sentiment, on a une cesse de le dire. Alors c'est vrai que politiquement, c'est plus sympa de parler de sentiments parce que ça se dédouane de responsabilité quant à la réalité des faits. Mais en attendant, la situation est grave. S'y attaquer est une bonne chose. Avoir des propositions également. Après, il faudra les mettre en œuvre et ça, on y sera vigilant, bien entendu.
Il y a des tirs tous les jours, hein, vous nous dites, dans les quartiers dangereux, dans certaines cités et dans certaines grandes villes également, notamment dans la capitale. Ça existe aussi, pas tous les jours, mais aussi. Combien de quartiers dangereux en France, David Olivier Reverdy ?
Je n'ai pas de chiffres à vous donner. C'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de quartiers, parce qu'aujourd'hui, même les quartiers les plus anodins supportent un trafic de stupéfiants. Donc, qui dit trafic, dit derrière des protections, des armes pour protéger son business et pour se défendre envers d'autres personnes qui voudraient occuper le terrain, tellement le business, comme je vous le disais, est lucratif.
Ouais. C'est ça qui frappe, c'est que même les villes, j'allais dire moyennes, même les bourgs dans certaines...
Même dans les campagnes, bien sûr, ce n'est pas l'apanage des villes, on va dire des milieux urbains. On le voit beaucoup, les trafics aussi se délocalisent dans les campagnes les plus tranquilles, les plus paisibles, parce que on est un peu plus reculé, on pense être un peu plus à l'abri. Donc aujourd'hui, c'est un réel problème, un réel fléau. Et parler de sécurité, ce n'est pas un gros mot. Et avoir des actes et faire des propositions, c'est une bonne chose. Encore une fois, comme je vous le dis, c'est les actes que l'on veut, hein, parce que cette phrase du Karcher, on l'a déjà entendu il y a quelques années.
Bien sûr.
Mais sans parler de justice, parce qu'il faut coller la justice à ces propositions-là et obliger à la fermeté de la justice, c'est vrai qu'on n'y arrivera pas.
Et on entend qu'au lieu d'emmerder, hein, je cite le président de la République, hein, on a le droit de le dire, les non-vaccinés, Emmanuel Macron ferait mieux d'emmerder les délinquants. Qu'est-ce que vous en dites ?
Bien évidemment, ça coule de sens. Alors, la phrase, je ne commenterai pas la phrase du président de la République. Oui. Je pense que vous l'avez assez fait et la population s'en fera son avis, bien évidemment. Le problème aujourd'hui, certes, il y a le Covid, il y a la vaccination, il y a tous ces problèmes-là de vie qui nous pourrit la vie depuis 2 ans. Mais il y a des choses qui pourrissent la vie depuis plus que 2 ans dans la population. C'est la sécurité, c'est l'insécurité, c'est les trafics, c'est les armes, c'est la drogue, et c'est une réponse pénale bien souvent qui n'est pas à la hauteur. Et c'est vrai que rétablir les petites peines de prison pour que ça soit des peines réellement effectives, comme ça se fait dans d'autres pays d'Europe, hein, notamment d'Europe du Nord, où la prison, en fait, elle est automatique dès les petites peines, de manière à éviter la réitération et la récidive. Nous, on a choisi le système inverse. On ne met pas les gens en prison, et puis une fois qu'ils ont réitéré 15-20 fois, on décide éventuellement de les mettre en prison. Donc c'est vrai que c'est peut-être le système qu'il faudrait revoir et reprendre les choses par le bon bout.
Merci beaucoup David-Olivier Reverdy, policier, secrétaire national adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Merci d'avoir été avec nous dans Europe Midi.
Europe Midi. Midi 30, 13h, Romain Desarbres.
12h39, le pass sanitaire devrait se transformer en pass vaccinal autour du 15 janvier. Le texte a été voté en première lecture ce matin à l'Assemblée nationale, à 5h26 exactement. Il va partir au Sénat la semaine prochaine. Céline Géraud avec nous. Bonjour Céline.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte ? Rappelez-nous.
Alors, ce qui va changer concrètement, si vous avez plus de 12 ans, eh bien vous devrez désormais présenter un justificatif de statut vaccinal à jour pour accéder aux restaurants, aux activités de loisirs, aux salons, mais aussi à tous les transports publics sur le territoire français. Le test négatif ne suffira donc plus, sauf pour accéder aux hôpitaux ou aux services de santé. Les gérants des lieux et des activités soumises au pass vaccinal pourront effectuer des contrôles d'identité. Pour les centres commerciaux, aux grands magasins, eh bien, ce sera à chaque préfet d'en décider. Et puis le pass ne sera exigé qu'à partir de 16 ans pour les sorties scolaires et les activités périscolaires. En ce qui concerne les salles de spectacle, les stades, les conditions d'accès seront validées lundi. Et pas pas de changement pour les grands rassemblements, 2000 personnes en intérieur, 5000 en extérieur. Quant aux meetings politiques, eh bien le pass pourra être exigé, concertation en cours sur d'éventuelles jauges. Et puis attention aux fraudeurs, sanctions renforcées pour la présentation d'un pass appartenant à une autre personne, l'amende passe de 135 à 1000 euros et pour la détention d'un faux pass, 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Enfin, il y a cet amendement sur la repentance. Pas de sanction pour les détenteurs d'un faux pass s'ils se font injecter une première dose de vaccin dans les 30 jours suivant l'infraction. Le projet de loi, vous l'avez dit, sera examiné par le Sénat en début de semaine prochaine.
Merci Céline. Alors il y a un frémissement à la hausse du nombre de primo-vaccinés. Ceux qui avaient décidé de ne pas se faire vacciner et qui finalement y vont. Donc pour la première piqûre, plus de 60 000 rien que dans la journée d'hier. C'est pas un raz-de-marée, mais c'est une tendance notable. Thibaut U, en direct avec nous d'un centre de vaccination à Nogent-sur-Marne, en banlieue parisienne. Thibaut, vous avez rencontré des primo-vaccinés déjà. Qui sont-ils? Quel est leur profil? Et pourquoi ont-ils décidé de se faire vacciner?
Et bien, parmi les quelques primo-vaccinés que j'ai pu croiser, il y avait d'abord des réfractaires, ceux qui ont essayé de repousser coûte que coûte la piqûre. Mais pour Linda, 24 ans, ne pas avoir de pass sanitaire, c'était devenu beaucoup trop contraignant.
Franchement, je suis venue à reculant, on va dire. Ouais, je le fais parce que j'ai pas le choix. Je le fais parce que récemment encore, je me suis fait tester. J'ai payé 25 euros pour le test antigénique. Et actuellement, j'ai pas assez de ressources. Je suis étudiante, donc je suis assez restreinte dans tout, en fait. Je peux pas aller au resto, je peux pas aller au cinéma. J'étais pas assez convaincue. Je le suis toujours pas. Hein.
Mais ils ne sont pas tous réticents. Hein. Sandrine, par exemple, a préféré attendre parce qu'elle était enceinte.
J'ai accouché, là ça fait 3 mois, j'ai arrêté d'allaiter, donc pour moi c'était normal de me faire vacciner maintenant, c'était par précaution. C'était pas par rapport à moi, mais c'était par rapport à mon enfant. Quand on est enceinte, on se fait vacciner de rien, pourquoi faire celui du Covid?
Voilà, en tout cas les médecins le disent ici, les primo-vaccinés sont de plus en plus nombreux à venir. Plus d'une quarantaine sont attendus aujourd'hui dans ce centre de vaccination.
Merci beaucoup Thibaut. On est en direct avec le professeur Philippe Amouyel. Bonjour professeur.
Bonjour.
Épidémiologiste, professeur de santé publique au CHU de Lille. Le Premier ministre dit qu'il est prêt à lancer les opérations pour la 4e dose de vaccin quand les autorités sanitaires donneront leur feu vert, évidemment. Où est-ce qu'on en est exactement de cette 4e dose? On va y aller ?
Alors, le pays le plus avancé en matière de 4e dose, c'est Israël, hein, toujours un coup d'avance. Donc, ils ont imposé une 4e dose aux plus de 60 ans, aux immunodéprimés et au personnel médical. Donc, près de 100 000 personnes. Et ils commencent à avoir des résultats. En particulier, ils ont pris un groupe de 150 soignants qui avaient eu 3 doses il y a plus de 4 mois. Ils leur ont fait donc cette 4e dose. Et dès une semaine, ça a remonté instantanément le taux des anticorps circulant. Donc l'essai est toujours en cours, ils vont être surveillés pendant 6 mois pour voir leur évolution, mais ça veut dire que cette 4e dose permet de fonctionner et d'offrir une complication, une protection contre les formes graves à nouveau. Donc voilà où on en est à peu près pour ce qui est des données. Maintenant, il y a des enjeux qui sont alors plus à discuter avec la Haute Autorité de Santé pour avoir des avis là-dessus.
Mais professeur, on ne va pas se faire vacciner tous les 3 ou 4 mois quand même, si ?
Alors, tous les 3 ou 4 mois, non. Là, on est dans une phase de crise qui est assez unique avec ce variant Omicron, avec des chiffres qui dépassent 300 000 cas par jour. Donc, on est dans une phase extrêmement particulière. Ce qu'on peut espérer, c'est que tout ça va finir par se stabiliser, probablement à l'horizon de l'été, et qu'on espère, hors variant qui émergerait de manière inopinée, passer sur un mode endémique, avec probablement une vaccination régulière tous les ans, puisque apparemment le tropisme est quand même, l'habitude de ce virus est quand même de venir nous visiter plutôt les saisons hivernales.
La généralisation du masque FFP2, hein, le masque blanc, le bec de canard, un avis sera rendu demain. Quel est le vôtre? Quel est votre avis sur la généralisation du FFP2?
Alors, il se trouve aujourd'hui qu'on a quand même un taux de contamination absolument gigantesque et que le FFP2 assure une meilleure protection que le simple masque chirurgical. Donc oui, on peut sérieusement se poser la question de son utilité, en particulier dans les zones extrêmement densément occupé, avec beaucoup de brassage, le généraliser éventuellement. Pour vous donner un exemple, à l'université, dans le cadre des examens de nos étudiants, on leur donne un masque FFP2 juste pendant l'examen pour justement les protéger au mieux et qu'ils puissent composer le plus sereinement possible.
Restez avec nous, professeur, s'il vous plaît. On va partir en Italie. Le gouvernement italien met en place l'obligation vaccinale pour les plus de 50 ans. Arthur Iosco, en direct de Rome. Bonjour Arthur. sûr. La question qu'on se pose en France, c'est comment les Italiens vont-ils faire pour appliquer cette obligation ? En France, Emmanuel Macron a dit dans Le Parisien en clair que ce serait inapplicable car on ne peut pas envoyer la police pour emmener les gens dans les centres de vaccination. Alors comment vont faire les Italiens ?
Alors oui, c'est vrai que le gouvernement oblige, c'est le mot qu'il a utilisé hier soir, mais dans un premier temps, en fait, aucun contrôle n'est prévu. Je m'explique, ce n'est qu'à partir du 15 février prochain, dans un peu plus d'un mois, que toute personne qui a plus de 50 ans, eh bien, devra être munie d'un passe sanitaire renforcé pour travailler. Ce passe, c'est celui qui s'obtient seulement avec la vaccination ou la guérison. Donc, de fait, pour toute personne de plus de 50 ans qui voudra sortir de chez lui pour se rendre au travail, que ce soit dans le secteur privé ou public, devra être vaccinée. Ce sera aux employeurs de contrôler. Les réfractaires ne risquent pas de perdre leur emploi, mais leur salaire, ils risquent de le perdre et aussi, ils risquent une amende entre 600 et 1500 euros. Cette obligation a été accueillie ici, je dois dire, dans une relative indifférence. Pour l'instant, aucune manifestation d'anti-vaccin n'est prévue, sans doute aussi parce qu'au fond, c'est seulement une extension d'une mesure qui existe déjà, le pass sanitaire renforcé, imposé à une frange toujours plus grande de la population italienne. La décision du gouvernement, après 3 heures de négociation hier, a en effet été prise à l'unanimité. La seule question qui reste maintenant, c'est comment les autorités contrôleront les non-vaccinés qui ne travaillent pas.
Merci beaucoup Arthur. Professeur Amouyel, toujours en direct avec nous. Pourquoi pas mettre en place en France l'obligation vaccinale pour les plus de 50 ans, en clair les plus fragiles, plutôt que ce pass vaccinal qui concerne toute la population ?
Alors, le problème, c'est le problème du contrôle. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va mettre en place l'énergie, le coût, le temps que ça va devoir imposer? L'avantage du pass vaccinal, c'est, quand on est actuellement en période épidémique comme maintenant, c'est d'avoir un maximum de gens vaccinés pour éviter la surcharge hospitalière. Donc, les plus de 50 ans, mais également les moins de 50 ans, puisqu'on voit que les plus de 50 ans sont quand même assez bien vaccinés en général et qu'il y a un rajeunissement des cas. C'est une autre stratégie qu'a adopté le gouvernement italien. Pour l'instant, la notion de passe vaccinal telle qu'elle devrait être votée le 15 janvier couvrir une grande partie de ces obligations italiennes.
Merci beaucoup, professeur Amouyel. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Très bon après-midi. La suite à présent du feuilleton Djokovic en Australie. Le numéro 1 du tennis mondial est toujours très concrètement enfermé dans sa chambre d'hôtel à l'aéroport de Melbourne. Et comme a priori il n'est pas vacciné, les autorités australiennes ont annulé son visa. Et il devait être expulsé, repartir, en tout cas quitter l'Australie. Mais Axel May, bonjour Axel.
Bonjour.
Ses avocats ont obtenu un sursis jusqu'à lundi. On est jeudi jusqu'à lundi.
Oui, alors pour être très précis, après avoir passé la nuit à l'aéroport à tenter de régler ce problème de visa dans une pièce isolée de son équipe, sous bonne garde, a même assuré son père, eh bien, après cette nuit très particulière, Novak Djokovic a été conduit ce matin dans un hôtel près du centre-ville où sont hébergés les migrants refoulés à la frontière, le parc hôtel, hein, loin des établissements luxueux qu'il fréquente d'habitude. Si son statut vaccinal reste officiellement inconnu, le numéro 1 mondial, qui n'a jamais caché ses réticences face à la vaccination, avait obtenu une dérogation médicale pour se rendre à Melbourne. Et c'est visiblement parce que ces justificatifs n'ont pas été concluants que son visa a été annulé. Quoi qu'il en soit, Djoko, l'homme aux 20 titres du Grand Chelem, souvent présenté comme mal aimé du public, ne va pas sortir grandi de cette affaire. Julien Chassaigne est l'entraîneur de Richard Gasquet, joint ce matin à Melbourne.
Et il est mal aimé parce que Nadal et Federer sont adorés. Il cherche l'amour du public partout, mais il est tellement loin derrière des deux autres qu'il en souffre terriblement. Et je ne pense pas que cette histoire va l'aider. Ça peut jouer encore contre lui. Et pendant que Nadal est là et Federer qui se remet de sa blessure, ça parle de Djokovic pour les mauvaises raisons. Mais quand même, il y a des gens de l'Open d'Australie qui lui ont donné le verre pour venir. Sinon, il n'aurait pas pris son billet d'avion. Donc, ce n'est pas entièrement de sa faute non plus.
Voilà, pour l'instant, Djokovic est donc en sursis. Nouvelle audience devant statuer sur son expulsion, fixée à lundi par la justice. Et on ne sait pas s'il a sa raquette de tennis dans sa chambre.
Merci beaucoup. C'est compliqué hein, de jouer au tennis dans une chambre d'hôtel. Merci Axel. 12h49, restez bien avec nous. Et comment faire pour que des maires puissent donner leur parrainage à Éric Zemmour sans que ces maires subissent des pressions? Éric Zemmour, qui était ce matin l'invité d'Europe 1, a fait une proposition aux maires de France. On en parle dans un instant. Et puis, on sera avec Louis Dragnel qui a des informations sur la campagne d'Éric Zemmour. Restez bien avec nous. À tout de suite.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Il est 12h51. Éric Zemmour ne veut pas tomber dans le piège tendu par Emmanuel Macron. Interrogé ce matin sur Europe 1 par Sonia Mabrouk, le candidat reconquête à la présidentielle n'a pas voulu commenter la petite phrase du président qui emmerde les non-vaccinés. Écoutez.
je ne courrai pas après Emmanuel Macron et je ne vais pas dire « oulala qu'il est méchant, il dit j'emmerde les Français, il dit des gros mots, voilà, on n'a pas 4 ans ». Qu'est-ce que fait Emmanuel Macron ? Il veut faire du Covid le sujet de la présidentielle, il veut cliver, moi ça ne marchera pas. Le sujet de la présidentielle, c'est l'identité de la France,
nous allons en parler.
Je continuerai à le dire, je ne tomberai pas dans son panneau, je ne marcherai pas là-dedans, il ne m'aura pas.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonjour Louis.
Bonjour Romain.
Louis, le sujet capital pour Éric Zemmour, c'est le nombre de parrainages, les fameuses 500 signatures au minimum. Et vous nous dites que les Républicains ont intérêt à ce qu'Éric Zemmour puisse se présenter. Hein.
Absolument. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Républicains ont tout intérêt à ce qu'Éric Zemmour puisse être présent au premier tour de la présidentielle pour une raison simple. En fait, si l'ancien journaliste ne peut pas se présenter, mécaniquement, Marine Le Pen va faire un meilleur score au premier tour, ce qui pourrait empêcher Valérie Pécresse de se qualifier au deuxième. Alors, c'est un peu de la tambouille, mais c'est capital pour éviter à la droite de perdre la présidentielle. Et donc, tout l'enjeu pour Valérie Pécresse, c'est de faire baisser le plus possible le score de Marine Le Pen en permettant à Éric Zemmour d'être bien présent. Donc, concrètement, pour permettre à Éric Zemmour d'avoir ses 500 parrainages de maire, il n'y a pas d'accord officiel entre les Républicains et l'équipe de campagne du candidat du parti Reconquête, mais comme me le confiait hier soir un des très proches conseiller de Valérie Pécresse avec un sourire gourmand. Je ne vais pas vous dévoiler toutes nos coulisses, mais il faut que la démocratie s'exprime. Il faut qu'Éric Zemmour soit candidat. Et s'il n'obtient pas ses parrainages, on fera ce qu'il faudra.
Et au sujet des signatures, justement, Éric Zemmour, ce matin, sur Europe 1, a lancé un appel au président de l'Association des maires de France. Il lui soumet une proposition clé en main. Écoutez.
Je fais un appel à David Lisnard. Que je connais, qui est un type...
Qui était à la tête de l'Association des maires de France et qui est maire de Cannes.
Remarquable, un démocrate. Et je lui propose de demander au maire de faire un pool de signatures et de donner les signatures à tous les candidats qui sont au minimum, je sais pas moi, 5%, 8%, on peut voir ça, c'est lui qui décidera. Mais que ça soit que les noms ne veuillent plus rien dire, puisque ça sera décidé par tous les maires. Et je pense que ça serait une mesure démocratique, je ne parle pas seulement pour moi.
Voilà, donc il ne parle pas seulement pour lui, il fait cette proposition très concrète. Autre point important, Louis Dragnel, Éric Zemmour a réussi à récolter 9 millions d'euros pour sa campagne.
Absolument, c'était une information d'Europe 1 ce matin. Donc en date du 31 décembre dernier, le montant des dons et des adhésions était de 9 millions d'euros, vous l'avez dit, pour Éric Zemmour. C'est un montant très élevé à cette période de la présidentielle. À titre de comparaison, Emmanuel Macron avait récolté 7,2 millions d'euros en février 2017, ce qui était déjà considéré comme un exploit. Ensuite, il y a aussi la question ultra sensible des emprunts auprès des banques, dont Éric Zemmour aura également besoin. C'est compliqué parce que les institutions bancaires rechignent de plus en plus à être associées à des personnalités politiques. Même si des négociations sont engagées avec le médiateur du crédit à Bercy et au ministère de l'Intérieur, vous savez, c'est la personne qui est chargée d'aider les candidats dans leurs relations avec les banques. Un proche d'Éric Zemmour veut croire que les questions pécuniaires ne seront pas un problème. Et de conclure, on lance des perches gentiment, mais pour l'instant, quand on voit le montant des dons, on n'a aucune inquiétude par rapport à la question des banques.
Louis Dragnel, merci beaucoup Louis. Il est 12h55, je voulais qu'on aille faire un tour à Las Vegas, tout simplement. C'est le grand rendez-vous mondial de tous les fabricants qui vont y exposer leurs nouveautés. Le salon de l'électronique de Las Vegas, on y découvre les grandes tendances. Aurélien Fleureau avec nous. Aurélien, les Français, c'est ça qui est important, sont bien représentés là-bas. Hein.
Effectivement, malgré les restrictions sanitaires, la France reste la deuxième délégation internationale présente au CES, derrière les États-Unis qui évidemment joue à domicile. Et ces quelques jours à Las Vegas arrivent après 2 mois de préparation pour ces jeunes pousses. C'est l'occasion pour elles de devenir, pourquoi pas, la nouvelle pépite de leur secteur. D'ailleurs, parmi les grandes thématiques de cette édition 2022, il y a la santé. Le français Withings présente non pas une simple balance connectée, mais quasiment un centre de santé avec check-up quotidien possible à la maison. Ça s'appelle le BodyScan, innovation qui vient d'être récompensée sur le salon, tout comme celle de la jeune entreprise Graphil pour son test and pass, un test nasal qui détecte la présence de virus en moins de 5 minutes. Et la mobilité est aussi au cœur des innovations. Un exemple avec Éric Morand, directeur tech de Business France.
On a des entreprises comme Charge Poly, par exemple, qui va présenter finalement une station de charge rapide pour véhicules électriques. Également multi-véhicules à partir d'une seule borne, qui est une nouvelle technologie brevetée et qui aujourd'hui n'a pas d'équivalent ailleurs dans le monde.
Et puis le CES, c'est aussi l'occasion pour les grandes entreprises de faire des annonces. Ça a été le cas hier avec le partenariat stratégique entre Stellantis et Amazon pour fabriquer ensemble des voitures connectées.
Merci beaucoup Aurélien. Il est 12h57, le temps. Avec Marlène Duret, le soleil domine, Marlène, mais pas partout, hein.
Et oui Romain, des Ardennes à l'Auvergne, en passant par la Bourgogne, mais aussi du Grand Est à la région lyonnaise, les nuages vont rester nombreux cet après-midi, malgré les quelques éclaircies qui réussiront à percer par moments, et puis on pourra voir quelques flocons. La Corse aussi doit compter avec pas mal d'averses, et de la neige des 1000 mètres d'altitude. Ailleurs, c'est une belle journée, belle amélioration sur la Côte d'Azur et le Pays Basque. Et puis au fil des heures, le ciel va se voiler de plus en plus dans le nord-ouest à l'approche d'une perturbation. Les premières pluies vont arriver en Bretagne. En soirée et en première partie de nuit, ces pluies vont gagner les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, la Normandie, la région parisienne et les Hauts-de-France. Et en arrivant sur de l'air froid, eh bien les précipitations pourront prendre un petit caractère neigeux. À noter pour finir, le vent toujours bien présent près de la Méditerranée. Les températures, eh bien on prévoit un minimum de 3 degrés à Clermont-Ferrand et Besançon. Il fera 4 à Nancy et Bourges cet après-midi. 17 à Caen, Paris, Toulouse, 9 à Marseille et jusqu'à 14 à Nice.
12h58, merci Marlène. Dans un instant, c'est La France bouge et nous, on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi. Très bel après-midi sur Europe 1.